Même audio? Une mémoire sonore?
Pour cette rencontre intitulée Découverte du sujet CNRD, donc le sujet est la fin de la Shoah et de l'univers concentrationnaire nazi, survivre, témoigner, juger 1944-1948. Cette rencontre est organisée en partenariat avec l'Association des professeurs d'histoire et de géographie, avec l'Académie de Toulouse, avec le Mémorial de la Shoah, autant Paris que l'antenne Sud. Cette rencontre va se répartir entre quatre interventions. Dans un premier temps, je présenterai l'offre documentaire et pédagogique du musée en lien avec le Concours national de la résistance et de la déportation. C'est ensuite Emma Camin qui prendra la parole en tant que médiatrice pédagogique à l'antenne Sud du Mémorial de la Shoah, pour présenter l'offre du Mémorial de la Shoah en lien avec le CNRD. Ensuite, ce sera Véronique Garrigue, ici présente, historienne, professeure agrégée d'histoire et de géographie au lycée Simone de Beauvoir à Gragnac, qui, elle, reviendra sur ses plusieurs années d'expérience de présentation du concours CNRD avec ses élèves. Et enfin, Olivier Lalieu, historien, responsable de l'aménagement des lieux de mémoire et des projets externes du Mémorial de la Shoah, fera une conférence sur le thème général du CNRD. Évidemment, à la fin de chaque intervention, vous pourrez poser les questions qui vous intéressent par rapport à ce que vous prévoyez de faire avec vos élèves. Et pour ne pas céder au quart d'heure toulousain, parce que c'est pas tant que le temps presse, mais vu qu'on est nombreux et nombreuses à intervenir, je vais pas m'épancher et entrer dans le vif du sujet en ce qui concerne le musée. Pour le musée départemental de la résistance et de la déportation de la Haute-Garonne, on peut proposer quatre éléments en lien avec le CNRD. Tout d'abord, une aide à la recherche, j'y reviendrai. Ensuite, nous proposons une programmation scientifique et culturelle qui a trait en général à la Seconde Guerre mondiale et qui, comme c'est le cas aujourd'hui, peut être parfois spécifique pour le CNRD. Je reviendrai ensuite sur la plaquette CNRD qui est éditée par le Conseil départemental et mise en place par notre collègue Émilie Mahé, chargée d'inventaire et de documentation. Là, vous avez à votre libre disposition, soit dit en passant, le programme du musée, la plaquette de l'an dernier, parce qu'il nous en reste, parce qu'elle est imprimée, parce que le sujet n'est pas totalement éloigné entre celui de l'an dernier et celui de cette année. Et vous avez la brochure nationale qui a été mise en place par la Fondation de la mémoire de la déportation et la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Donc après être revenu sur la plaquette CNRD mise en place par le musée, je dirais un mot des actions pédagogiques que nous proposons ici en lien avec le CNRD. Alors pour l'aide à la recherche, on peut vous proposer un accès aux collections du musée. À vous d'identifier en amont ce sur quoi vous voulez travailler avec les élèves et de nous donner surtout un maximum d'informations sur ce que vous savez déjà, parce que ça nous aide à effectuer ces recherches. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante, musée-du6resistance@cd31.fr, avec comme objet, s'il vous plaît, recherche CNRD. Et ensuite, en fonction de vos demandes, ben, on va voir déjà ce qu'on trouve. Est-ce qu'on a des fonds en lien avec votre recherche ou non? Et selon l'ampleur de la demande, on peut vous faire éventuellement parvenir des documents numérisés par mail ou sur rendez-vous aménager un moment de consultation de ces documents. En plus de l'aide à la recherche, le musée, je l'ai dit tout à l'heure, propose donc une programmation tout au long de l'année, scientifique et culturelle. Il y a donc des événements liés avec le CNRD. On espère en 2026 recevoir notamment Annette Viviorca pour présenter plus en détail ce sujet. Et j'attire aussi votre attention sur une programmation qui n'est pas celle du musée, mais qui porte sur des sujets qui sont susceptibles de vous intéresser dans le cadre du CNRD, à savoir la diffusion du documentaire « Ceci n'est pas une guerre » au cinéma Le Cratère à côté d'ici à Saint-Michel le samedi 8 novembre à 20h. Ça, c'est un documentaire qui part sur le fait de filmer le Paris confiné Et la personne qui fait ce documentaire échange avec son père qui a été un enfant caché. En fait, le confinement lui rappelle cette période et donc s'ensuit un échange. Et puis, par ailleurs, une pièce de théâtre qui se joue à l'Aria à Cornebarieux. C'est une pièce intitulée « Moments », écrite par Jean-Claude Grumbert et qui sera jouée le vendredi 7 novembre à 20h30 et le samedi 8 novembre à 20h30. C'est un garçon qui pose des questions à sa maman et puis quand sa mère commence à perdre la mémoire, elle qui pose des questions à son fils et en creux, évidemment, en plein... Il y a la relation mère-fils, mais en creux, il y a aussi, à certains égards, l'histoire de la Shoah qui se dessine dans cette pièce. J'en viens aux aspects les plus principaux, à savoir la plaquette pédagogique. Donc, celle que vous avez sous les yeux, c'est celle de cette année qui est en train d'être éditée, qui sera bientôt disponible sur notre site internet et au format physique ici au musée. Cette plaquette, elle fait une cinquantaine de pages. Elle a été élaborée, donc, je l'ai dit tout à l'heure, par notre collègue Émilie Mahé, chargée d'inventaire et de documentation ici au musée. Et comme vous pouvez le voir avec le sommaire, elle se divise en trois axes principaux. Les sous-titres du sujet de cette année, survivre, témoigner, juger. Mais on va retrouver également des ressources utiles, une série de définitions, une chronologie très fine de la période qui excède les bornes chronologiques 44-48, mais qui est très resserrée sur 44-48, et tout un tas de ressources. Alors là, vous verrez, il y a par exemple, parmi les ressources bibliographiques, des éléments plutôt rares, mais qu'on va retrouver au musée. Voilà, il y a des références évidentes, hein. Je vois le Auschwitz de Tal Brüttmann, par exemple, ou le procès de Nuremberg d'Annette Wiewiórka. Mais pour ce qui est de catalogue d'exposition, etc., nous les avons et nous les tenons à votre disposition au sein du centre de documentation. Et puis, par-delà le format livre, il y a des QR codes qui renvoient à des ressources type podcast ou audiovisuel. De manière plus générale, cette plaquette CNRD, elle va utiliser principalement, elle propose une riche iconographie et elle va principalement utiliser les collections du musée. Il y a l'idée en fait d'utiliser l'histoire locale pour illustrer et incarner ce qui se passe au niveau national et international. Évidemment, il y a des spécificités locales, mais par-delà ces spécificités locales, les trajectoires de déportés, là vous pouvez le voir pour Dora, donc soit dit en passant, la plaquette n'est pas éditée, il y a une petite coquille à Mittelbau, Dora, nous l'avons repérée et nous ne manquerons pas de la corriger. Ça peut être des destins aussi qui se recoupent dans des camps de concentration, dans des centres de mise à mort. Donc, comme je l'ai dit, on revient sur les axes principaux du concours. Pour ce qui est de survivre, on va avoir, avant même de parler de la sortie des camps, la vie dans les camps, que ce soit dans l'univers concentrationnaire ou l'univers génocidaire. On va détailler l'avancée des alliés, ce que ça implique, évacuation des camps et de centres de mise à mort, marche de la mort, ouverture des camps par les alliés. Et il va y avoir des zooms, parfois particuliers, comme des cas de libération depuis d'un camp. Je pense au cas de Hélène Larieux, par exemple, qui a été otage déportée à Ravensbrück et qui a pu finalement être libérée parce qu'elle était enceinte. Deuxième axe, celui du témoignage. Donc là, par exemple, dans l'iconographie, vous avez le guide national du rapatrié, mais pour la région toulousaine. Donc là, on retrouve l'aspect à la fois national et local avec les collections du musée. Sur cette thématique témoignant, on va retrouver l'idée qu'il y a une collecte immédiate des preuves, à la fois pour faire histoire, pour faire mémoire, mais aussi, le cas échéant, pour contribuer à juger les accusés. La question du rapatriement qui aurait pu tout à fait se situer dans l'axe survie se retrouve ici dans témoigner, plus une question de symétrie, si vous voulez, de quantitative des parties. Et ensuite, on va mettre en avant l'existence de témoignages publics, parce qu'on témoigne dans l'immédiat après-guerre. Mais malgré ces témoignages publics, ça n'enlève rien au fait qu'il peut y avoir de larges difficultés à témoigner au niveau individuel, intime. Enfin, la troisième partie On aura l'occasion, je pense, d'en discuter. C'est celle qui pose le plus de difficultés vis-à-vis de l'histoire locale. S'il s'agit de juger la Shoah et l'univers concentrationnaire, les liens directs avec la région toulousaine sont un peu plus distendus. Mais en fait, ce n'est pas éludé. Justement, il y a l'évocation de l'épuration en France, le cas du procès Pétain où la Shoah n'est pas mentionnée, mais on fait aussi des zooms locaux avec, par exemple, le cas du procès de Pierre Marty, qui était intendant de police à Toulouse, et dans l'exposé des faits, le fait qu'il a contribué à la déportation de nombreuses personnes est mentionné. Donc, on insiste aussi sur le fait que, durant la répression des faits de collaboration, si la déportation, qu'elle soit dite de répression ou de persécution, n'est peut-être pas la plus répandue dans l'accusation, elle existe tout de même. Il y a évidemment dans juger et dans la plaquette des éléments qui sont dits sur le procès de Nuremberg, mais aussi, comme c'est fait d'ailleurs dans la brochure nationale, mention est faite de d'autres procès qui dépassent Nuremberg. Et puis, le cas du droit international est également évoqué. Donc, en plus de l'aide à la recherche, en plus de la programmation scientifique et culturelle et de cette plaquette mise en place par le musée, on propose également des médiations. Alors, c'est particulier de les proposer aujourd'hui, puisque notre agenda, nos créneaux de visite pour recevoir les élèves est déjà comble. Il n'empêche qu'on peut rester des interlocuteurs et interlocutrices pour vous renseigner sur ce qu'on met dans l'atelier, parce que ce n'est pas le copier-coller de la plaquette CNRD. C'est le cas, par exemple, donc, quand on reçoit des élèves pour une classe de 30 élèves, on va les diviser en 6 groupes et il y aura deux tables, deux groupes sur survivre, deux groupes sur témoigner et deux groupes sur juger. Et l'idée, par exemple, qu'il y a un pas de côté par rapport à la plaquette est incarnée par le cas de Jean Saint-Arromand. Pour le cas de Jean Saint-Arromand, donc résistant, agent de liaison, déporté à Neuengam, on a une archive ici au musée où, lors de l'ouverture du camp, il peut écrire à ses parents et il annonce son retour prochain. Retour qui n'aura pas lieu puisque Jean Saint-Arromand décède le 19 juin 1945 à Neuengam. Donc pour nous, le cas de Jean Saint-Arromand, il nous permet d'illustrer auprès des élèves une notion mise en avant par des historiennes comme Laure Fourtage ou Alexandre Doulut, pas seulement, de distinction entre l'idée de survie et de rescapé. On peut assister, vivre l'ouverture du camp, y survivre quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, et puis s'éteindre dans la foulée. Alexandre Doulut propose de plutôt qualifier ce type de parcours de survivant, tandis qu'un ou une rescapée sont les personnes qui pourront survivre plusieurs années après l'ouverture des camps. Donc vous voyez, il y a des pas de côté qui sont faits, et puis il y a surtout une entrée biographique, c'est le cas de Jean Saint-Arromand ici. Pour illustrer le rapatriement avec l'hôtel Lutetia, on a choisi la trajectoire de Jules Solechnik, qui a principalement vécu à Revel, là, qui pour le coup est à Paris, élève au lycée Henri IV, et qui va s'engager comme bénévole à l'hôtel Lutetia, en espérant retrouver son père qui a été déporté à Buchenwald et à Bergen-Belsen, bien que son père ne revienne pas de déportation. Pour le témoignage, ça c'est présent pour le coup et dans la plaquette et dans l'atelier et aussi dans l'exposition temporaire que nous proposons sur les 50 ans du musée. Nous avons la dactylographie d'une conférence qui s'est tenue le 13 mai 1945 au cinéma des variétés dans le centre-ville de Toulouse et qui a pour titre « Les rescapés des camps de la mort vous parlent ». Ici, il s'agit d'attirer l'attention des élèves sur ce terme « camp de la mort » qui regroupe deux réalités différentes, celle des centres de mise à mort systématique et celle des camps de concentration. Et parmi les personnes qui interviennent lors de cette conférence, on va retrouver tant Alfred Nakache, déporté à Auschwitz avec sa femme Paul et leur fille Annie, qui sont toutes deux assassinées tandis que Annie avait 2 ans, et la trajectoire d'un Georges Segui qui, lui, va être déporté à Mauthausen et qui sera rescapé de Mauthausen. Donc c'est pour dire aussi qu'il y a des témoignages publics et en même temps on contraste ça avec la difficulté de témoigner dans le privé. Jeanine Maurice Messerli, que vous avez à votre gauche, a été déportée en tant qu'agent de liaison du réseau Prunus. Quand elle rentre de Ravensbrück, elle essaye de se confier à sa mère et sa mère lui dit que son témoignage lui fait du mal, elle se met à pleurer. Donc il y a voilà, cette difficulté à témoigner, y compris dans la sphère intime. Et pour le cas de Hélène Greengrosse, qui elle a été déportée à Auschwitz puis à Bergen-Belsen, par exemple, le tatouage qu'elle garde de Auschwitz dans les balles au retour de la libération, elle dit que c'est son numéro de téléphone, par exemple. Donc là, on voit la pudeur liée au stigmate de la déportation. Pour juger... comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le même problème qu'avec la plaquette. On n'a pas énormément de ressources propres au musée sur Nuremberg, sur l'évolution du droit international. Donc on a pris la décision d'axer l'atelier sur un cas local, puisque Pierre Marty, intendant de police à Toulouse, à partir du 15 avril 1944, qui arrivera à Toulouse concrètement en mai 1944, et son adjoint Jean Dercheux, sont jugés par la Cour de justice de Toulouse et condamnés pour Marty à mort le 23 juillet 1948 et pour Dercheux aux travaux, aux travaux forcés à perpétuité le 23 juillet 1948 également. Là, ça permet aux élèves de voir l'évolution du droit de la répression des faits de collaboration. Alors, pas un atelier juridique, mais on montre une ordonnance, on montre l'exposé des faits, on montre également l'arrêt. Et donc, ça permet de dire qu'il y a eu une justice en France. Il n'y a pas eu que de l'épuration extra-légale, souvent appelée épuration sauvage à tort. Et pour montrer que ce travail d'épuration judiciaire a été mené, et autant que possible, mené à bien. Je n'avais pas ma montre avec moi, donc je ne sais pas si je suis dans le temps, j'espère. En tout cas, j'en ai terminé. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on propose ici au musée en lien avec le CNRD?
Même audio, une mémoire sonore.
Bonjour, donc moi je m'appelle Emma Camin, je travaille pour l'antenne sud du Mémorial de la Shoah de Paris et je suis également médiatrice. Donc de la même façon que Tristan, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on propose au Mémorial et je vais commencer tout simplement par présenter le Mémorial parce que, étant donné qu'il est à Paris, peut-être que vous ne savez pas très bien ce que c'est. Bon, j'avais fait une petite phrase, mais on va passer à la slide suivante, c'est mieux. Donc, voilà le Mémorial de la Shoah de Paris, qui est donc un musée qui traite de la Shoah, bien sûr, avec un centre d'archives très important et des lieux de mémoire. On a, en fait, le lieu, si vous voulez, le Mémorial de la Shoah de Paris, c'est aussi plusieurs institutions. Donc, il y a évidemment, ce musée-là, il y a aussi le musée à Drancy, qui traite là du camp d'internement et de la déportation depuis ce lieu même. Et puis, il y a d'autres institutions annexes, notamment à Orléans, le CERCIL, qui traite uniquement donc, des enfants du Veldiv et de leur déportation, à Pithiviers, qui traite de la gare et du camp d'internement, et au Chambon-sur-Lignon, qui traite surtout du sauvetage des Juifs. Et il y a l'antenne sud, à Toulouse, qui n'a pas vraiment de bâtiment concret, mais on existe surtout grâce à nos ateliers qu'on propose dans les classes et nos parcours en centre-ville. Donc c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas souvent entendu parler de nous, mais on est bien là, donc je vais vous présenter ce qu'on propose là, plus concrètement, pour le CNRD. Donc, premièrement, tout comme le musée, on propose des ateliers. Le premier, ça s'appelle très simplement Atelier CNRD. Donc là, ça parle du sujet de fond en comble, qui va donc aborder les trois thèmes du concours, un peu différemment que l'atelier du musée, puisque nous, on va traiter de la partie survivre plutôt en classe entière, puisque c'est souvent un sujet qui est abordé déjà en cours. Donc, on n'a pas voulu forcément faire travailler les élèves avec des archives sur ce sujet-là. Donc, voilà, on va aborder ça en classe entière avec des photographies, des vidéos qu'on projettera sur notre diaporama. Et après, on va traiter donc de témoigner et de juger avec des dossiers par groupe, souvent ce qui se fait dans les ateliers. Et pour parler un petit peu plus concrètement de ce qu'il y a dans ces dossiers, on essaie de poser la question aux élèves par rapport à témoigner, pourquoi témoigner, d'abord. Peut-on témoigner? Et puis aussi, comment est-ce qu'on peut témoigner? Et concernant la thématique donc, de juger, là, ça va plus parler... on va poser de la question de est-ce que la justice est vraiment équitable? C'est-à-dire, est-ce qu'ils permettent de juger correctement ou pas les collaborateurs, notamment? Et on va évidemment parler de la fondation d'une justice internationale de Nuremberg jusqu'à la fin 1948. Voilà. Donc c'est écrit ici, mais il est disponible à partir de janvier 2025, ce qui veut 2026, je me suis trompée d'ailleurs. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas réserver maintenant. Ça veut juste dire qu'on pourra vous réserver des créneaux qu'à partir de janvier. Mais si ça vous intéresse, bien sûr, vous pouvez demander dès aujourd'hui à l'antenne, au mail de l'antenne sud du mémorial. Précision sur ça aussi. Donc nous, on intervient dans vos établissements. Et si vous souhaitez le faire plutôt sur Toulouse pour changer un petit peu, on est aussi en lien avec l'espace diversité laïcité. Je ne sais pas si vous voyez bien où c'est, donc en centre-ville de Toulouse, qui nous prête des salles. Voilà, donc c'est un peu comme vous le souhaitez. Ensuite, on a réadapté, on le fait chaque année, des ateliers pour le thème du CNRD. On a un atelier Femmes en résistance qu'on produit chaque année, mais là, on l'a adapté à la thématique du CNRD. Et on a choisi pour cela 5 femmes qui sont en lien soit avec survivre, témoigner ou juger. Bon, la plupart, enfin, toutes ont survécu et la plupart ont témoigné. C'est plutôt pour juger où ça concerne seulement 2 d'entre elles. Mais voilà, je vous ai mis les noms des 5 femmes juste en dessous. Mais je vais peut-être pas m'attarder là-dessus, ça va me prendre un peu de temps. Mais si vous avez des questions après, je pourrai y répondre. Et le but, c'est de retracer un petit peu leur destin, de comprendre déjà ce qu'elles ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça traite aussi de la résistance des femmes, ce qui est intéressant, mais aussi de après, est-ce qu'elles ont réussi à témoigner, est-ce qu'elles ont participé à des procès, voilà, est-ce qu'elles ont été incapables de témoigner. Bon voilà, c'est toutes ces questions qui sont abordées dans cet atelier-là. Et le dernier qu'on a retravaillé également, c'est l'atelier Résistance juive, qui là traite principalement donc c'est dans le titre, mais des juifs qui ont résisté. Alors c'est à la fois en France, mais aussi à l'international. Et ce qui est intéressant dans cet atelier, c'est qu'on parle de la reconnaissance et la mémoire d'après-guerre, qui, vous le savez, a été un petit peu différente entre les déportés politiques et les déportés qu'on dit raciaux. Donc voilà, il traite de plusieurs destins, un peu comme Femmes en résistance. Donc si vous connaissez un petit peu les noms, on va parler de Odette Rosenstock, Joseph Duniec, Léon Poliakov, Zivia Lubetkin et Georges Oran, qui donc, sont tous en lien avec cette thématique-là. Voilà. En plus de ces ateliers, d'ailleurs, bon, vous l'avez vu peut-être sur chaque diapositive, ils sont tous disponibles qu'à partir de janvier. Mais donc, en plus de ces ateliers, on fait aussi des parcours hors les murs qu'on appelle, mais c'est des parcours en ville, en fait, qui, là, vont peut-être plus vous servir de base pour contextualiser un petit peu cette période-là, qui peuvent être aussi utiles pour compléter quelques questions que vous pourriez avoir. Et donc, on en a 5 qui parlent de plusieurs thématiques différentes. Alors, si ça vous intéresse qu'on inclue, par exemple, un destin toulousain que vous évoquez dans votre... en groupe, dans votre mise en place du concours, on peut très bien s'adapter à chaque fois à vos demandes. Mais voilà, pour les 5 thématiques, on parle des femmes, de la 35e brigade, donc qui est une brigade d'étrangers à Toulouse. Le 3e, c'est plutôt global, hein, histoire et mémoire, c'est un peu sur quelques pans de l'histoire à Toulouse, mais aussi de comment on va mettre en place la mémoire dans la ville de Toulouse spécifiquement, voilà, pour rendre hommage aux victimes. Et résistance et répression, là, c'est vraiment très global. Je ne suis pas trop sûre que vous puissiez trouver grand-chose en lien avec le CNRD, mais ça peut toujours servir de contextualisation, comme je le disais. Et puis, propagande et contre-propagande, qui est assez intéressant parce qu'il va beaucoup parler du biais médiatique qu'est le journal et qui va servir énormément aussi pour les procès d'après-guerre. Voilà pour les parcours. Et ensuite, on a ce qu'on appelle des expositions itinérantes, donc des expositions qu'on va pouvoir louer aux établissements enfin je dis aux établissements, mais si vous voulez le louer pour le mettre dans une salle des fêtes, peu importe, un espace dédié, vous pouvez également. Donc on en a une qu'on a créée spécifiquement pour le thème du concours, qui donc a pour titre exactement le titre du CNRD, mais je ne vais pas le répéter parce qu'il est extrêmement long. Mais sinon, à part cette exposition-là, on en a beaucoup d'autres. Donc là, je vous ai fait la liste. Je n'ai pas forcément mis d'image parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. Donc, si je compte bien, on en a 10. Donc, il y a des expositions, comme c'est écrit, focus historique et d'autres biographiques. Certaines qui sont totalement dans le thème, d'autres qui juste peuvent vous aider à compléter un petit peu cette histoire-là. Voilà, je ne vais peut-être pas dire tous les titres les uns après les autres. Si vous voulez, je peux. J'allais dire, est-ce que je vais vous donner le diapo ? Je ne sais pas. En tout cas, vous le retrouvez sur notre site du mémorial. Voilà, toutes les expositions qu'on peut louer. Et ensuite, comme le musée, on a également des événements. Alors, on n'en a pas 36 pour l'instant, on en a un qui est prévu. Mais on va diffuser la plus précieuse des marchandises. Alors pareil, ce n'est pas entièrement correspondant au sujet du CNRD, mais ça peut, voilà, ça peut toujours compléter, être utile avec la classe pour contextualiser, pour discuter aussi de cette période-là, qui donc va se passer le 26 janvier à l'espace diversité laïcité, comme je l'ai dit précédemment. Et enfin, puisque le travail ne peut se faire sans ressources, bien sûr. On a également sur notre site un espace dédié où vous pourriez trouver des archives en ligne. Alors, elles ne sont pas toutes numérisées, les archives du mémorial, mais vous pouvez toujours tenter de taper ce que vous souhaitez chercher et trouver. Et peut-être qu'il y aura des archives correspondantes. Mais dans le cas où vous ne trouvez pas ce que vous souhaitez, on a donc cette adresse mail que j'ai mis en très gros sur le diapo, qui est donc l'adresse mail de la documentaliste du mémorial qui va pouvoir vous aider à chercher des archives que vous n'auriez pas trouvées sur le site. Et il y en a beaucoup qu'on ne trouve pas, donc peut-être qu'il serait mieux de la contacter directement. Voilà, notamment si vous souhaitez aussi utiliser des archives en ligne, il faut lui demander également, parce que les archives souvent que vous pouvez trouver, elles sont estampillées mémorial. Donc voilà, si vous voulez les avoir sans ce logo, vous pouvez demander aussi à Claire. Voilà, et je finirai ma présentation avec juste une phrase, puisque donc là je parle d'ateliers concrets, de parcours concrets qu'on a déjà préparés, mais même si je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, je voulais revenir sur le fait qu'on peut totalement co-construire un projet avec vous. Donc si vous avez des idées ou des demandes particulières, vous pouvez toujours nous adresser un mail, nous téléphoner, on sera ravis de vous aider à construire votre projet. Et concernant notre brochure, je fais une petite aparté, mais c'est toujours intéressant. On l'a finalisée ce mois-ci. Donc, c'est la brochure qui regroupe les ateliers dont je vous ai parlé, mais aussi d'autres ateliers sur d'autres thématiques, les parcours, enfin bref, tout ce qu'on propose pour, à la fois pour les élèves, mais aussi pour les enseignants, qui devrait vous être envoyé par mail incessamment sous peu. Mais bon, il faut attendre un peu... je pense quelques semaines. Et si vous ne la recevez pas, ce qui est fort probable, vous pouvez aussi nous envoyer un mail pour nous la demander. Ça sera avec grand plaisir. Voilà. Si vous avez besoin que je vous remette des adresses mail parce que j'ai passé un petit peu vite, je peux le faire. Sinon, c'est tout pour moi. Oui, pareil, si vous avez des questions. Oui.
Pour les ateliers, est-ce que vous intervenez que dans les
Non, pas du tout. On intervient partout, que ce soit dans la région toulousaine, mais même au-delà. On peut aller partout en France, en fait. Voilà.
Alors, sur les ateliers, concrètement, il faut prévoir des temps de combien ?
Ah oui, un atelier dure 2h30 environ. Alors, 2h30 sans la... enfin, avec la pause comprise, donc on est plus sur 2h, 2h15 d'atelier. Mais bien sûr, il y a un quart d'heure de pause qui fait du bien aux élèves, mais aussi à nous. Voilà. Oui, ça, atelier 2h30. Les parcours, ça oscille entre 1h et 2h. Ça dépend aussi ce que vous souhaitez. Et voilà, je crois qu'après, sur les durées, je suis bonne. C'est, alors, vous pouvez vous inscrire pour une classe, deux classes, trois classes, peu importe. Mais nous, on intervient, enfin, il y a un médiateur pour une classe. Donc, admettons, si moi, je viens intervenir dans votre établissement, je pourrais faire cinq classes en une semaine. Mais généralement, on ne dépasse pas deux ateliers par jour. Voilà. Le matin, l'après-midi, souvent. Et on fait le pass culture. Il faut aussi, d'ailleurs, se rapprocher du département parce que parfois, on fait aussi des partenariats avec le département. En fait, il y a tout un tas de façons de financer ça. Et si vous avez des questions d'ailleurs à ce sujet, vous pouvez toujours contacter l'adresse mail Antenne Sud parce que on pourra vous répondre bien plus précisément à ces questions parce que moi, je m'occupe pas trop de ça.
Même audio, une mémoire sonore.
On va désormais écouter Véronique Garrigue, historienne, professeure d'histoire et de géographie au lycée Simone de Beauvoir de Gragnac, pour ton retour d'expérience par rapport au CNRD.
Alors, juste pour moi, une question avant de commencer. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais fait ? Il y en a qui connaissent déjà ? Parce que, bon, il y a des choses, en fait, ça ne vous sera pas forcément très utile. Ou est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais fait le concours ? OK. Bon, donc, il y en a pour qui, enfin, ils vont voir s'ils font comme moi ou pas. Voilà, l'idée, c'était juste, en intervenant, d'ailleurs, avec l'idée, c'était le partenariat avec la PAG, hein, de pouvoir ensuite s'entraider, parce que c'est un peu le but, ça doit être un concours, hein, l'idée, c'est pas la mise en concurrence, c'est de faire travailler les élèves sur ce thème, et de vous dire, enfin, moi, ce qui la façon dont je procède quand on découvre le nouveau thème. Alors, si vous êtes habitué, généralement, le nouveau thème, on l'attend. Il arrive vers le mois de mai, hein, ou un petit peu avant. Cette année, il avait été glissé, d'ailleurs, de façon très rapide dans une conférence d'Elisabeth Borne. Enfin, je ne sais plus quel ministre c'était. Oui, ça devait être elle à ce moment-là, on ne sait plus. Donc, on a à peine terminé, ou on n'a même pas encore forcément les résultats de la session, qu'on peut déjà commencer à se projeter. Et en fait, tout est une question d'organisation, en tout cas en ce qui me concerne. Donc, s'organiser, la question, c'est avec quels élèves alors, on pourrait dire les nôtres, a priori. Mais est-ce que vous êtes en classe ou vous êtes en demi-groupe est-ce que vous êtes avec des élèves qui sont volontaires ou qui ne le sont pas? Est-ce que vous faites un club est-ce que vous travaillez seul? Est-ce que vous travaillez en équipe, disciplinaire, mais ça peut être avec la documentaliste, ça peut être quand on est en collège. Alors pour le coup, moi, je suis en lycée, mais je l'ai aussi fait en collège, avec les collègues de français, des disciplines artistiques. Enfin, voilà. Il n'y a pas une configuration qui soit la bonne. C'est celle qui vous convient le mieux, hein, finalement. Mais ça détermine pas mal de choses ensuite. Une question qui n'est pas anodine nous concernant, c'est sur quels horaires ? Est-ce que c'est pendant vos cours ? Alors, moi, je suis avec les terminales, je le fais dans le cadre, et puis j'ai histoire géo et EMC, donc je fais ce que je veux, hein, sur ces heures. Donc, ça peut être de l'EMC, je bascule, enfin bon, bref. Il y en a qui sont en club. L'avantage, c'est que quand c'est sur les heures de cours, ben, vous êtes payé. Est-ce que vous aimez les pactes ou pas les pactes, hein. Pour ceux qui sont dans la maison, vous savez ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a une enveloppe d'heures sup qui peut vous être donnée ? Enfin, voilà, c'est aussi une question qui n'est pas négligeable, parce que voilà, si vous attendez la reconnaissance, ben, j'ai rien dit, de l'institution, on passe à autre chose. Voilà. Et dans l'organisation, après, c'est la planification des séances. Ben oui, parce que si vous êtes dans la classe, est-ce que vous continuez dans ce cadre horaire et sur quel rythme ? Si vous êtes en demi-groupe ou voilà, il suffit qu'il y ait des jours qui sautent. Enfin, ouais, y a plein de choses en termes organisationnels qui peuvent se poser très rapidement, sans compter qu'il y a les heures qui sautent pour plein de raisons. Et puis, autre chose où il ne faut pas oublier non plus de s'inscrire. Et là, on passe par adage. Si vous ne l'avez jamais fait, il faut repasser par cette plateforme maintenant, en tout cas au niveau académique, pour que les inscriptions soient validées. C'est à partir du mois de décembre. Non, c'est adage au niveau académique maintenant. Moi, c'est comme ça qu'on m'a montré. De toute façon, il y a la circulaire, il y a le niveau national, hein, il y a le règlement, et puis au niveau académique, il y a toute la procédure qui est remise. L'année dernière, il y avait deux temps. Il y avait une préinscription. Et après, les services du rectorat renvoyaient un fichier. Il fallait qu'on confirme bien le nombre de groupes avec les élèves qui étaient engagés, tout simplement, parce qu'à la fin, voilà. Et ce n'est pas parce que vos élèves sont inscrits que vous enverrez forcément tous les dossiers. Vous voyez aussi ce qu'ils peuvent produire. Donc, je vous ai mis du bon. Il y a du moins bon. Non, mais parce que... Bon, voilà, après, la question, effectivement, c'est aussi la finalité. Alors, moi, je vous le dis tout de suite. En termes d'organisation, donc, c'est une classe entière. L'année dernière, j'avais le choix. J'avais deux terminales. Bon, j'ai fait deux projets totalement différents. Mais donc, il y a une classe qui a fait le CNRD et puis une classe qui a fait autre chose. Mais en fait, vous ne savez pas au départ. Enfin, c'est un peu la loterie. C'est comment ça va se faire. Est-ce que vous allez tomber, entre guillemets, sur les élèves. Alors, je ne dis pas les bons élèves. Parce que les bons élèves ne sont pas les meilleurs candidats pour le CNRD, je vous le dis tout de suite. On a souvent des surprises avec des élèves qui se révèlent justement dans ce concours et qui découvrent justement ce que peut être une enquête historique ou qui ont des talents cachés, et notamment moi ceux que j'ai pas en termes de dessin numérique et autres, et qui peuvent mettre en avant ces compétences et qui sont bien utiles pour la réalisation de leur projet ensuite. Bon, donc là, c'est nous, on s'organise. Oui. Alors, moi, ça va être à titre collectif, à titre individuel. J'aurais bien voulu, s'il n'est pas là, en discuter éventuellement avec Cédric Marty, mais avec les sujets de disserte et tout, et le bachotage. Enfin, là, moi, l'idée, c'est... je sais que des collègues le font, hein, voilà. Mais là, pour le coup, moi, ça m'intéresse moins. Enfin, moi, en fait, vous allez vite comprendre, ce qui m'intéresse, c'est les archives, les documents. Voilà. On cherche, on ne trouve pas forcément, mais bon, voilà. Et donc, mettre avec les élèves la main à la pâte avec ce matériau qui est quand même le cœur de notre métier. Et donc, après, c'est comment organiser le travail des élèves. Alors, alors, si vous êtes en club, la question ne se pose pas forcément de la même façon, parce que vous êtes avec des élèves volontaires, et il n'y a pas forcément de finalité avec une note à la fin. Dans le terminal, il y a le contrôle continu, et ce n'est pas anodin, moi, si j'ai pris ce niveau. Alors, je n'ai pas de demi-groupe. Hein, je travaille avec la documentaliste, et honnêtement, sans elle, ce serait aussi beaucoup plus compliqué, parce que quand vous commencez à avoir des thèmes différents, et qu'il faut arriver, enfin, vous avez tous vécu ça, hein, à passer entre six groupes différents et repasser d'un sujet à un autre. Enfin, bon, bref, ce n'est pas toujours très simple. Donc, voilà. Donc, moi, mon binôme, c'est la documentaliste avec qui je m'entends très bien. Puis ça me permet de l'obliger à acheter un certain nombre de livres, donc c'est très bien aussi. Donc, se pose pour moi la question de comment aussi évaluer les élèves. Alors, il y a une évaluation qu'ils ont faite, parce qu'ils sont venus au préalable au musée, donc juste avant les vacances, où ils ont fait visite hors les murs et visite soit de l'exposition temporaire ou permanente. Et là, demain, ils me rendent un compte-rendu sur ce qu'ils ont fait de la visite, où c'est plus de l'argumentation, le bilan de la visite. Grosso modo, je veux savoir ce qu'ils en ont retenu et comment ils écrivent, ce qui peut être intéressant pour la suite. Par ailleurs, sur un format libre, donc, ceux qui veulent créer et jouer avec leurs photos, ils pouvaient également. Après, il y a des supports que je leur demande. Un, parce que ça les oblige à s'organiser. Et puis ensuite, moi, ça permet aussi d'évaluer. Il y en a une, c'est ils vont travailler en groupe. Alors, ce n'est pas dans ma nature, mais pour le coup, je les laisse libres. Ils se mettent en groupe comme ils veulent. Par affinité, ils vont devoir travailler ensemble. Ils vont devoir travailler ensemble pendant pratiquement 3 mois, presque 4. Donc, autant qu'ils s'entendent bien. Hein, parce qu'une fois que les groupes sont faits, il n'y a plus de... Il n'y a plus d'échange possible. Donc, un groupe par affinité. Et je leur demande d'élaborer leur sujet. Alors, c'est là que notre travail en amont, il joue. Donc, soit ils ont repéré des choses qui pouvaient les intéresser au musée et qui peuvent les mettre sur une piste. Moi, je suis passée avant aux archives. Mais pas de la Haute-Garonne, parce que je suis juste à la limite, je suis à la frontière. Hein, en étant à Gragnac, je suis limite Haute-Garonne-Tarn, donc j'ai basculé sur les archives départementales du Tarn pour essayer de repérer quelques fonds, et puis en travaillant avec le service éducatif, des documents qui pourraient, ou des thématiques qui pourraient les intéresser, au-delà de ce qu'on peut trouver par ailleurs en se servant des ressources qui vous ont été mentionnées auparavant. Donc, je leur demande d'élaborer leur sujet. Ils travaillent avant avec... Alors, avant, parce que j'ai jamais assez de brochures, je leur fais télécharger télécharger sur l'ordinateur la brochure numérique et bah, comme un sujet de disserte, ils sont en train de... voilà, ils décortiquent le sujet. Et ils y ont passé plus d'une heure. Ils avaient pu se mettre aussi en groupe, là, comme ils voulaient. Et finalement, se dire en ayant un peu connaissance du sujet par eux-mêmes, sans que moi, j'y mette ma patte, qu'est-ce qui les intéressait le plus ou qu'est-ce qui les intéressait peut-être un peu plus que tout ce qui ne les intéressait pas par ailleurs. Parce qu'on n'a pas forcément des... Ouais, je n'ai pas un fan club d'historien quand je commence le début de l'année. Hein. Je peux espérer qu'à la fin de l'année, ça change un peu, mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis, autre chose dans l'organisation, j'ai commencé en cours. Bah forcément, en tout cas en terminale, ça marche bien avec le cours sur la Seconde Guerre. Enfin, voilà, arriver le plus rapidement possible à la Seconde Guerre mondiale pour pouvoir contextualiser tout ce qu'ils sont en train de découvrir, que ce soit au musée, que ce soit dans les lectures ou leurs futurs sujets. Donc bah là, pour eux, vendredi, ils sont en groupe et il faut qu'ils me donnent cette fiche. Voilà, ce sera noté sur 10, ce sera en EMC et ce sera très bien comme ça. Deuxième temps et qui arrive aussi assez rapidement, c'est penser le support. Sur quel support ils vont travailler ? Alors là, moi, je vous ai donné l'autre partie, un peu la face cachée, mais la plus importante. Alors ça, c'est ceux, c'est ceux de l'année dernière. Je vous donnerai après. Enfin, vous pourrez voir par vous-même. C'est pas leur réalisation, ça, c'est le livret d'accompagnement. Et vous allez voir que c'est important de s'être organisé juste avant. Tu me diras après si ça va trop. Enfin, j'ai bientôt fini. De récupérer les informations au fur et à mesure, parce qu'il faut... Le livret d'accompagnement, c'est expliquer la démarche. Comment est-ce que les élèves ont travaillé ? En fait, c'est les coulisses, vous savez, les ateliers de l'histoire, de l'historien qu'on retrouve maintenant dans la fin des livres où on explique comment on a travaillé. Bah, c'est ça. On explique parce que vous pouvez faire un super film. Oui, voilà. En plus, bah, tu pourras donner ton point de vue. Ce sera très bien aussi, comme ça, d'éclairer de l'autre côté. Vous pouvez faire, par exemple, une super vidéo, un super objet, etc. Mais c'est comme dans les musées. Hein, vous pouvez avoir des pièces exceptionnelles. Bah, si ce n'est pas expliqué, si ce n'est pas mis, si vous n'avez pas quelqu'un pour vous expliquer pourquoi c'est là, comment c'est là, bah, ça ne sert pas à grand-chose. Donc là, vraiment, c'est expliquer la démarche. Et bah, cette démarche, quand on commence à la prendre en novembre et puis que tout d'un coup, fin février, début mars, on se dit « Ah, il faut faire le livret, je me souviens de quoi bah, ». En fait, pas grand-chose. Bah, ça sert de trame. Alors, s'il y a des anciens qui ont connu les TPE, c'est un peu l'ancêtre du carnet de bord, si vous voulez, et ça ressemble un petit peu à ça. Alors, pensez le support. Ça, c'est au départ aussi pour qu'ils se rendent compte qu'on ne peut pas faire Spielberg tous les ans, surtout dans l'éducation nationale. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ben, ils prennent le règlement, parce qu'il y a le règlement national aussi. Ben, la vidéo, ce n'est pas deux heures. Hein. Il y a un temps qui est contraint. Les objets, ce n'est pas quelque chose qui va remplir une pièce. Il y a aussi une taille. Par exemple, il y en a qui peuvent faire des jeux de plateau. Ben, le plateau, il a une taille particulière. Ben, voilà, ça, voilà. Donc, les obliger à lire le règlement un petit peu et qui décrivent voilà, ce qu'ils veulent faire et qui expliquent pourquoi ils veulent le faire. Donc, c'est pour qui ? Pour qui ? À part parce qu'ils sont contraints à cause de la prof d'histoire géo. Voilà. Pour qui ils font ce support ? Est-ce qu'ils ont pensé que ce support pouvait servir à autre chose qu'un jury, éventuellement avoir un prix ? Pour transmettre quelles idées ? De quelle façon ? Et puis après, de quel matériel ils ont besoin ? Donc, parce que là, moi, j'en ai déjà qui sont partis sur des super sites Internet. Why not, hein. Mais la question, mais pourquoi faire ? Donc, est-ce qu'ils ont les compétences ? Là, il y en a qui, l'année dernière, ont fait des films. Ça tombe bien, parce qu'il y en a un qui avait la compétence pour montage, pour aller prendre le son. Ceux qui dessinent, etc. Donc, est-ce qu'ils ont des compétences, eux, qu'on ne peut pas leur apporter ? Au-delà du matériel, parce qu'une prise de son avec les téléphones ou autres, c'est bien sympa, mais on va pas très loin. Alors, il se trouve qu'au lycée, là, on est équipé, enfin, on a vraiment un micro-enregistreur qui fait quelque chose de correct, mais en termes de vidéo, l'année dernière, s'il n'y avait pas eu un élève qui avait son propre matériel, ils n'auraient pas pu faire tout ce qu'ils auraient voulu. Donc, il y a ces contingences matérielles. Et donc, moi, je leur demande de penser ce support. Et sur 10. ça permet aussi d'y penser. Après, bah, il s'appuie sur quoi ? Alors, les ressources, on vous en a déjà présenté pas mal. Le lycée est nouveau. Alors, autant vous dire que le CDI, moi, je pleure à chaque heure. J'ai beau faire acheter des ouvrages, c'est jamais les bons que je peux avoir. Donc, on utilise beaucoup ce qui passe par Internet. Donc, avec tous les sites institutionnels, bon, au-delà de tout ce qu'on vous a donné auparavant. Et puis, bah, les visites pédagogiques qui peuvent être faites. L'année dernière, les élèves étaient, par exemple, à passer une journée aux archives départementales, alors pour le coup dans le Tarn, pas Haute-Garonne, où étaient venus déjà aussi au musée de la résistance et de la déportation. Et moi, alors parce que une question de coût aussi que vous connaissez, pas ramener les élèves régulièrement au musée, j'avais passé une après-midi à prendre des photos sur des ouvrages qui étaient ici pour qu'ils puissent travailler dessus. Donc c'est pour ça que voilà, il y a un investissement personnel au-delà des cours. Vous aurez bien compris que ça peut demander du temps. Après, ça dépend aussi des relations qu'on noue avec les élèves au fil de l'année. Il y a des groupes qui ne fonctionnent pas du tout ou très mal. Enfin, il faut aussi l'accepter. Hein. Voilà, il y a un livret qui passe. Alors il y en a certains. Le groupe, c'était trop nombreux d'ailleurs. Ils étaient peut-être 14-15. Oui, parce qu'il y en a un qui était là, qui n'était pas là. Enfin, bon, bref. Y a un groupe, elles étaient deux, et c'est le groupe qui n'a pas fonctionné. Elles, super, hein, elles ont très bien fonctionné pendant toute l'année, hein, mais le résultat, elles n'écoutaient pas les conseils. Quand il y a une qui était absente, il y a l'autre qui n'avait pas son ordi. Enfin, bon, ça a été une galère pour elles, sans nom, et le résultat a été... c'est dommage, elles avaient un super sujet. T'es en deçà de ce qu'aurait pu... voilà, peut-être mieux fonctionner si elles avaient été plus. Donc la question du groupe à cette année d'apprendre ses erreurs, moi, il n'y aura pas un seul groupe en dessous de 4 élèves et il n'y aura pas un groupe au-dessus de 6 élèves. Parce que après, on est dans la version TPE, mais les travaux publics, voilà, il y en a 2 qui bossent et 5 qui regardent, ce n'est pas vraiment intéressant. Bon. Et puis, dernière fiche que je leur demande assez rapidement, enfin, je leur demande en général vers janvier, parce que ça permet aussi de faire un point avec eux. Et là, la documentaliste, c'est elle qui note et qui bosse. C'est autour des sources, de la bibliographie, de la cytographie. Moi, j'ai des élèves qui sont en terminale, alors ils n'iront pas tous en fac d'histoire, enfin, même généralement aucun. Savoir référencer un article, un livre, etc., c'est quand même utile. Et voilà, et ça, c'est noté également. Et puis de se poser la question de la contextualisation, des questions qu'on pose, etc. Et donc, ils ont avec eux 2 outils. Un qui reste tout le temps au CDI, c'est donc, moi j'ai pris ça sous forme de cahier de brouillon, ils peuvent appeler ça carnet de bord, ce que vous voulez, ou carnet de recherche. Et puis, ils ont un dossier spécifique sur l'ordinateur où ils vont aller copier-coller tout ce qu'ils veulent, et ils en ont toujours 10 fois trop, parce que généralement, ils perdent leur. Une partie des références où ils les retrouvent mal. Donc ça aussi, leur apprendre à chercher, ça demande du temps. Donc ce qui vous est passé entre les mains, donc, c'est le résultat d'une classe de terminale l'année dernière où j'avais à la fin donc, 4 groupes. En sachant que pour le choix des sujets, ça s'est passé de la façon suivante. J'avais donné quelques pistes. Alors évidemment, le thème n'était pas le même. En manquant dans le local. Alors moi, travailler sur Jean Moulin, c'est super, ou Germaine Tillon, c'est fantastique, mais ça ne m'intéresse pas du tout parce qu'ils ne sont pas du coin. Voilà, c'est juste ça. Donc moi, j'essaye de faire quelque chose qui est en rapport avec, comme on disait tout à l'heure, un territoire. Ils ont travaillé l'année dernière autour de l'exécution d'un groupe de résistants à vol d'oiseau, 1 km du lycée. Je leur avais proposé ça. Et l'autre solution, alors pas très loin, et parce qu'un certain nombre d'élèves en sont originaires, il y a eu un camp d'internement à Saint-Sulpice-la-Pointe. Et on a des archives, des choses à travailler dessus que j'avais repérées, mais bon, sans forcément entrer dans le détail. Et j'ai la classe qui s'est scindée en 2. C'est bien d'avoir un chiffre pair. Bon, bref, j'en avais 16 d'un côté, 16 de l'autre. Donc je me suis dit, allez, va pour les 16. Ils vont s'occuper donc des fusillés, des bois de la Reule. Donc vous avez dû voir passer. Donc ils ont fait une vidéo. Donc la vidéo. A reçu un prix académique et, alors je suis très honnête, hein, sur le groupe de 16, il y en a 10 qui ont véritablement bossé de bout en bout. Les autres avec un investissement qu'on va qualifier de fluctuant, voire fictif pour un ou deux. Bon, après, c'est le jeu du travail en groupe. On a tous été élèves. Et pour les autres, elles ont donc travaillé, donc, parce que c'est, en plus, c'était il, sauf plus deux élèves dans le groupe, et les autres, c'était que des filles. On travaillait sur les internés, et pour le coup, les internés et, pour certaines, du camp de Saint-Sulpice, et en termes d'archives, sur quelque chose qui n'a jamais été travaillé localement. Enfin, voilà, pour le coup, et c'est là que ce sont les... Moi, je trouve que c'est l'intérêt du concours, des élèves qui ne feront pas histoire après, mais qui avaient ce sens de l'archive, vous savez, qui savent poser les bonnes questions, qui s'intéressent, qui savent tirer un fil et qui se disent « Ah oui, mais si on fait ça, etc. etc. » Et là, c'est super de les voir faire et qui ont créé un support particulier, etc., enfin, qui a reçu aussi un prix académique. Enfin, l'année dernière, l'idée, c'était de faire le grand chelem, raté. Vous avez un groupe qui a, qui était parti sur la production Spielberg. Je pense qu'on était parti pour au minimum un Oscar. Très rapidement, à partir du mois de décembre, on s'est rendu compte qu'on allait peut-être essayer déjà d'arriver à terminer le film, avec un pari décalé, avec des élèves. Alors, qui pour l'histoire géo, autant vous dire qu'elle s'accroche au concours, était déjà une bonne chose, parce qu'en histoire, il a fallu remettre quelques bases au départ. Mais bon, finalement, voilà, ça les a entraînés et ça. Finalement, ça les a aidés à raccrocher avec l'histoire-géographie par ailleurs. Donc voilà, le concours, ce n'est pas simplement gagné. Tu te souviendras peut-être, c'est celle qui a eu la mention spéciale d'un film, bon, mais qui a un parti pris autour d'une histoire d'évasion, qui ont fait des choses en décalé et qui se sont investis dans le concours. Et puis, donc le dernier, si je vous en ai parlé, c'était autour d'un journal. Moi, je pense qu'elles avaient un très bon sujet. Elles se sont... Voilà, elles ne sont pas entrées dans le sujet, elles n'ont pas trop écouté les conseils, que ce soit sur la forme et le fond. Et voilà où on... Et pas de prix. Alors forcément, vous avez toute la classe qui a eu le prix, sauf deux. Donc bonne ambiance à la fin. Mais il y a une chose aussi qui est intéressante et qui est, c'est que le. Et je vais te laisser la parole comme ça, Tristan. Tu vas pouvoir terminer peut-être là-dessus. Le jury fait remonter des notes. Donc les élèves qui ont eu un prix, au-delà de l'aspect réception à la préfecture, bon, je le dirai hors micro, tout le bien que j'aurais pu en penser, ces élèves, ils ont eu 20. 20, une année de terminale. Alors moi, j'ai plus de notes en EMC parce que ça bascule, on est en semestre, c'est sur le premier semestre. Je l'ai mis en histoire géo. Je pense qu'il y a un ou deux, ou une ou deux élèves. À la fin, ça fait le bac, soyons clairs. Et même les élèves qui n'ont pas eu de prix, ce n'était pas non plus ridicule. Après, je n'ai pas tous les secrets, mais bon, elles ont eu aussi une note qui, ça devait être 14 ou 15, enfin quelque chose comme ça. Ça ne fait pas mauvais dans une moyenne. Et puis, c'est aussi le reflet finalement d'un investissement qui court, si vous avez bien calculé, fin octobre. Jusqu'au mois de mars, c'est pas en sachant qu'il y a plein d'autres choses aussi au cours de l'année. Alors non, alors là, en ce moment, là, pour l'instant, je n'en avais absolument pas fait. Il y a eu la visite le vendredi des vacances, vendredi 2 heures semaine, et je vais faire 2 heures semaine décembre et une partie de janvier, et après je vais baisser le rythme et honnêtement, la semaine avant le rendu, je ne fais que ça. Parce qu'il y a toujours des trucs qui ratent, les impressions, ça ne va pas. S'ils font des films, les montages. Alors, il y a des choses que je laisse. Après, quand il y a des trucs bizarres historiquement, parce que honnêtement, l'intelligence artificielle est repassée par là. Enfin, il y a deux, trois trucs. Non. Enfin, derrière, c'est certes, c'est anonymisé, mais bon. Là, c'est quand même moi qui envoie les dossiers. Donc, il y a des choses que j'essaye de ne pas laisser passer. Après, il y a des choses, ils l'ont fait. Et puis c'est leur boulot. Moi, j'ai encadré, j'ai poussé, j'ai motivé. Et voilà. Donc, il y a des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Il y a des fois aussi, on n'a pas de prix. Ça arrive. Mais donc, l'année dernière, honnêtement, voilà. Bon, après, j'ai une classe, voilà, ça a fonctionné. Cette année, on verra.
Merci beaucoup Véronique. Oui, un mot parce que les agents du musée, ça m'est arrivé par exemple, on peut se retrouver à faire partie des sélections pour les prix académiques. Et je voudrais vous livrer quelques éléments par rapport à tout ça. Le premier point peut-être à dire par rapport à ce qu'a dit Véronique, c'est que je pense que le chemin importe plus que la finalité pour ce concours. Fréquenter des archives qui ne soient à minima des facsimilés, comme on peut proposer au mémorial ou ici, sortir de ce qui est proposé dans le manuel scolaire pour voir d'autres trajectoires qui donc proposent des parcours plus incarnés que des figures éblouissantes. Mais quand c'est éblouissant, ça crève un peu les yeux. Voilà, Jean Moulin, Germaine Tillon, c'est bien de se dire qu'il s'est passé quelque chose à un kilomètre de son bahut. Donc, par-delà les prix, etc., c'est faire des choses ensemble, avoir accès à l'archive, réfléchir, développer un esprit critique sur l'administration de la preuve, etc. Très concrètement, quand on se retrouve à devoir juger des travaux de groupe, déjà c'est très complexe parce qu'on peut avoir pêle-mêle un petit court-métrage à côté un jeu de société, à côté un autre jeu de société mais qui ne porte pas sur le même sujet. Donc c'est très difficile de mettre une note et il n'y a pas vraiment de critères de barème réel. Alors évidemment, le hors-sujet est exclu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le sujet change, du CNRD change tous les ans. Il y a des bornes chronologiques claires. Si la chose est très bien faite, par exemple, là, quand on voit le sous-titre témoigner et qu'on voit la borne 48, demain, moi, si je dois juger un travail qui est dans les bornes mais dépasse aussi, évidemment, il ne sera pas de fait exclu. Mais pour les choses vraiment trop hors sujet, là, il y a une exclusion un petit peu d'office. Intéressant n'est pas un critère discriminant parce que tout est passionnant. Personnellement, moi, quand je vois 44 et 48, il n'y a ni Touvier, ni Barbie, ni Papon. Au mieux, on met crime contre l'humanité qu'on va raccrocher, mais même là, il y a évolution du crime contre l'humanité, l'imprescriptibilité, etc. Donc, ça serait typiquement un hors-sujet qui crève le cœur si le boulot est bien fait. Alors, on n'est pas seul, hein, mais personnellement, à un moment donné, il faut trier. C'est navrant. Et s'il faut trier entre deux excellents projets, y en a un qui est dans les clous et l'autre qui ne l'est pas. Et là, l'aspect intéressant ne peut pas être un critère discriminant. Par contre, par-delà le hors-sujet, qui peut parfois être un peu flou avec les bornes chronologiques, les thématiques, etc., il y a, Véronique l'a rappelé à très juste titre, des critères très concrets. Et pour le coup, s'il y a un excès de taille, par exemple, d'une maquette qui est faite, il est possible qu'on ne la voit même pas. C'est-à-dire que ça soit trié en amont. Et voilà. Donc sur ça, vraiment, restez très attentifs aux critères matériels les plus prosaïques. Ça serait bête de passer à côté pour une dizaine de centimètres. Trois éléments rapides. Le premier, c'est que c'est très important pour les évaluations de mettre en avant les échafaudages. Qu'est-ce que les élèves ont fait? Quelle a été leur intention? Est-ce qu'il y a eu des ratés? On sait très bien que les recherches n'aboutissent pas du premier coup en claquant des doigts. Quelle a été leur démarche, y compris s'ils n'ont pas pu aboutir forcément à ce qu'ils souhaitaient initialement. Ça parle beaucoup plus que quand on a dans les mains, par exemple, un journal fictif, où on ne sait pas, un journal intime fictif, où on ne sait pas s'il est inspiré de plusieurs journaux intimes qui ont bien existé, ou si ça vient de quelque chose de purement créatif. Faire un petit livret avec les échafaudages, c'est primordial. Il y a un double enjeu distinctif. Par exemple, là, on l'a dit, on l'a répété, survivre, témoigner, accapare plus l'attention que juger. En même temps, par exemple, l'an dernier, c'était libérer, refonder la France. Il n'y a eu qu'un seul sujet de tête, là, comme ça, qu'un seul sujet sur l'épuration. D'un coup, il sortait un petit peu du lot par rapport à toutes les autres propositions qui ne parlaient pas de ce sujet-là. C'est toujours sur l'aspect distinctif, là je reprends ce que va dire Véronique, effectivement au niveau académique en tout cas, il y a une attention au niveau local. il y a de fortes chances que, restons avec Jean Moulin et Germaine Tillon, il y a de fortes chances qu'il n'y ait rien de très neuf. Alors, on n'est pas dans un jugement de la recherche, d'avancée scientifique, mais ça fait un peu exposer, alors que le travail en groupe permet peut-être d'éclairer un sujet plutôt local. Il y a des ressources, archives départementales, que ce soit du Tarn, de la Haute-Garonne, du Gers, du Tarn-et-Garonne, où vous voulez. Et il y a des ressources au mémorial, il y a des ressources ici, dans les bibliothèques, etc. Donc peut-être privilégier quand même le niveau local. Et enfin, comment dire ça ? Sur les formats un peu plus ludiques, ils sont les bienvenus. Je pense aux jeux de société, je pense aux journaux clandestins fictifs, etc. J'attire tout de même votre attention vraiment, si je peux me permettre, sur des efforts même de relecture. Je ne parle pas de faute de syntaxe ou autre, mais enfin, ça compte bien évidemment, mais d'anachronisme. Il y avait parfois, l'an dernier, je ne rentre pas dans le détail, mais il y avait des journaux, des dates ne correspondaient pas aux faits, mais vraiment, ça ne fonctionnait absolument pas. Il y a aussi, sur les aspects ludiques, encore une fois, c'est bienvenu, et on peut faire des quiz, par exemple, sur des sujets douloureux, ce n'est pas interdit. Attention au mauvais goût qui est impensé, mais je ne suis pas seul à avoir retrouvé en disant... voilà, pareil, je donnerai pas d'exemple concret parce que c'est important de faire ce travail collectif et nous on sait pas après comment les élèves sont encadrés, etc. Moi je veux pas douter de la bonne volonté des élèves ni des enseignants, mais une ultime relecture sur les fondamentaux vis-à-vis des anachronismes et d'éviter de encore une fois, on peut faire des jeux de société sur des sujets douloureux, faire des faux journaux clandestins ou autres, mais il y a des choses qui ne se font pas, enfin assez évidentes, sans que je rentre dans des détails. Je parle rien de scandaleux, hein, mais des choses qui pouvaient un petit peu déstabiliser lors de l'évaluation.
Même audio, une mémoire sonore.